Je viens d'écouter l'émission de Mermet ce mercredi sur les Peugeot. Bon, j'ai vécu 1968, j'ai 76 ans, donc, et j'ai vécu à Paris, mais je n'étais pas au courant de l'histoire Peugeot. On nous a toujours dit qu'il y avait le garçon qui était mort noyé. On n'a jamais su qu'il y avait, en tout cas moi, cette chose horrible. Alors, je suis extrêmement bouleversée parce que je ne devais partir avant 4 heures et je suis restée avant 3 heures. Je suis restée pour écouter ça. Je suis très contente que Daniel ait pensé à évoquer cette histoire qui est complètement oubliée, entre guillemets, par toutes nos autorités politiques et nos médias. Merci beaucoup et j'espère que vous allez continuer comme ça parce que c'est passionnant ce que vous faites. Michel, Paris.
Salut Daniel, c'est Daniel Dularzac, le gaulo-gauchiste. J'ai écouté ton émission sur le 11 juin 68 à Sochaux en rentrant de Millau cet après-midi et ça m'a rappelé des souvenirs. Eh oui, car je suis du pays de Montbéliard et j'avais 22 ans à l'époque. Je crois même avoir reconnu l'un de tes interlocuteurs. Quel accent on a, dis donc. Dommage que tu n'aies pas recueilli le témoignage de CRS ou de gendarmes mobiles. Il doit bien rester qu'ils sont encore en vie, non? En mai 68, moi j'étais lycéen à Strasbourg et en raison des événements, comme on disait à l'époque, on nous avait renvoyés dans nos familles respectives. Ma belle-mère, elle n'allait plus travailler car l'usine était bloquée, elle aurait bien voulu mais les piquets de grêle l'empêchaient. Elle a toujours été du côté des patrons, je crois. Et Peugeot, omniprésent, sempiternel. Ma future épouse travaillait chez Peugeot, elle, mais sous le contrôle des grévistes car elle faisait les payes. Bah oui. Et moi j'avais un petit magnétophone mini-cassette, je traînais dans les assemblées générales d'ouvriers Peugeot, dans le secteur de Montbéliard, pour enregistrer les meetings, et essayer de comprendre déjà. Ben depuis ce jour, j'ai en horreur la manipulation des foules dans les meetings, quels qu'ils soient. Les votes à main levée, comme au Soviet suprême ou à l'Assemblée des élus du peuple en Chine, mais aussi la lâcheté des dirigeants gaullistes de l'époque dans mon pays de Montbéliard. Comme disait Michel Jobert, ils étaient tous sous leur bureau. Et je peux te dire qu'ils étaient bien loin de l'esprit du 18 juin 40, ça soufflait plutôt à la Sorbonne. Hein.
Merci hier d'avoir donné la parole aux ouvriers, d'avoir rappelé que 6 mai juin 68 a été une grève étudiante. Il y a eu aussi les ouvriers qui étaient en grève et deux ont laissé leur vie à Sochaux. Mais je voudrais rectifier une erreur dans le commentaire de Daniel Mermet. Il a indiqué que le comité de grève était tenu par le PC, la CGT et la CFDT. Cela est faux. J'étais moi-même dans le comité central de grève, Jean Cadet, pour représenter la CGT. Il y avait 6 CGT et 6 CFDT. Certains étaient dans les partis politiques, mais aussi bien au PC, au PS qu'au PSU. Voilà, je voulais dire que ce comité de grève était l'émanation des organisations syndicales. Un autre point, il a indiqué également que le 10 juin, à l'initiative de la CFDT, en carrosserie, la grève a redémarré. Là encore, c'est une erreur, puisque la grève a redémarré à l'initiative d'ouvriers, mais également avec leurs militants, aussi bien CFDT que CGT. Voilà, merci.
Bonjour, je vous remercie beaucoup pour cette émission sur le 11 juin 68 à Sochaux qui a été très très forte pour moi. J'ai été OS à Simca dans une usine de chaussures, dans l'alimentation, et j'ai manqué d'y être même en Citroën en 65. Je relis aussi fortement ce que j'ai vécu comme soldat en Algérie en 61-62 et en mai 68. Aujourd'hui, je suis au mouvement de la paix et au MAN, mouvement des non-violents, tout en étant solidaire des ouvriers gauchistes ou non, emportés par la violence que la société capitaliste leur fait aujourd'hui, comme en 68. Je ne confonds pas les CRS avec le pouvoir qui les dresse contre nous. J'ai 69 ans, je me battrai jusqu'au bout pour les innombrables causes qui me paraissent justes. La guerre aux pauvres fait rage partout. Unissons nos forces. C'est Alexis, bien sûr, de la forêt de Brocéliande. Merci à vous tous.
Ordo vi cor vi ricordo. Anna was, Libyen, Dora Benz, Tobi.
Voilà, ce que vous entendez derrière, c'est la voix de James Joyce. Et c'est ma manière à moi de dire, les Irlandais, on compte sur vous, on compte sur vous, on est heureux de compter sur vous, vous nous avez donné le plus grand romancier du XXe siècle. Donnez-nous le plus beau nom de l'Union Européenne. Allez, on compte sur vous. Allez, encore un peu de Joyce, pour la joie.
His tittering daughters are.
Ah, si les Irlandais nous ont donné Joyce, ils peuvent nous donner un nom, quoi, je crois. Faire ça. Allez, salut.
Chittering waters are. Littering bats, field mice, off.
Oui, mais, si je me souviens bien, à la fin d'Ulysse, l'Ulysse de Joyce, la dernière phrase est faite d'une toute une série de oui. Je crois que c'est oui, je veux bien, oui, une chose comme ça. Hein? En tous les cas, merci de nous faire entendre la voix de James Joyce. Et puis, effectivement, répétons ce que disent pas mal d'Irlandais ces jours-ci. Voter oui, c'est comme une dinde qui voterait pour Noël. On aura les résultats demain. Vous avez entendu aussi ces messages très précis et très passionnés. Et on est très heureux sur l'émission d'hier, sur le 11 juin 1968 à Sochaux. Alors on va continuer parce qu'il y a eu des lendemains à ce 11 mai qu'est-ce qui est devenu, qu'est-ce qui s'est passé depuis au cours de ces 40 années. Et ben on va évoquer la condition ouvrière, les luttes ouvrières aujourd'hui, hier, à travers le parcours d'un certain nombre d'ouvriers et de militants de Peugeot que nous avons rencontrés. Avec derrière, dessous, en dessous, au-dessus, le vieux contentieux entre, Jean Cadet vient de l'évoquer à nouveau, entre le PC, le PS, le PSU, enfin le PC n'était pas là à l'époque, mais le PSU, la CGT, la CFDT, toutes ces tensions qui sont à la fois, le charme, on peut dire, et le désespoir et tout le problème au fond de ces luttes pour l'essentiel. Mais ça date pas évidemment de 68, c'est une très longue histoire. Et on va en évoquer une partie aujourd'hui à Sochaux lors de cette fête donnée le 30 mai. À la filature de ex-Japy, c'était une usine qui s'appelait Japy, et aujourd'hui cette filature a été réhabilitée et c'est là qu'on va se rendre jusqu'à 16h. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Jeanne en région parisienne. Alors voilà, il y a eu tout à l'heure un message d'un enseignant de la rue Vitruve. Je voulais un petit peu compléter. Le slogan, c'est « 1000 écoles servent de dortoir un peu partout en France la nuit du vendredi 13 juin pour éviter un réveil douloureux à la rentrée prochaine ». Pour toute information, vous allez sur nuit.d.école.over-blog.com pour vous inscrire, pour savoir exactement comment vous y prendre. C'est pas compliqué du tout. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Voilà. Bon courage à tous. Comme dirait Mermet, on n'a pas le cul sorti des ronces. Merci.
Oui, bonjour, Marie de Lyon. Je viens d'apprendre que le budget de l'Élysée a augmenté de 8,4% en un an. J'en reste quoi ?
Aux AMG du Limousin et d'ailleurs, en attendant le Chomsky et compagnie qu'on ne manquera pas de vous présenter à Limoges à la rentrée, venez nous rejoindre les 13 et 14 juin prochains à Royères-de-Bassivière en Creuse, où a lieu le premier festival du documentaire politique et social concocté par 4 associations de la région. De quoi vous donner du grain à moudre avec des films de Gilles Balbastre, Mehdi Lalaoui, Patrick Watkins et bien d'autres. Et c'est à prix libre pour que chacun puisse participer selon ses moyens. Tous les renseignements sur le site www.bobinerebelle.org.
Bonjour Daniel, ce matin sur France Inter, un grand économiste nous a tout expliqué. Daniel Cohen, d'aider la science. Définition du grand économiste, celui qui vous explique toutes les raisons d'une crise, alors que la veille, il était incapable de la prévoir. Daniel Cohen. Bonsoir, c'était Gilles à Saint-Brévin.
Ici, mai 68. À Sochaux.
C'est à Sochaux, le 11 juin 1968, que les affrontements ont été les plus violents. 150 blessés, plusieurs amputations, 2 morts. Henri Blanchet, 49 ans, et Pierre Bellot, 24 ans, tué par balle.
Christian Corot.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis avec Antoine Chao à Sochaux. L'histoire peut être porteuse de surprises salutaires. Flight number 2, arriving from...
À Sochaux, village du Doubs, tourne inlassablement la grande usine Peugeot qui produit 2600 voitures par jour. Sochaux n'a pas 3000 habitants et les 35 000 salariés qui y travaillent viennent de partout. Ces cars ne font pas seulement la navette entre les villages et l'usine, mais entre l'usine et ses cités, que la croissance constante de l'usine a fait sortir de terre autour de Sochaux. L'usine, nerf de tout ce pays, pénètre partout, s'insinue partout, apportant la vie, le travail et une certaine prospérité.
Heureusement que la lutte des classes n'est pas une science exacte. Et l'avenir, moi, c'est ma conviction, laissera certainement passer ou s'infiltrer des situations qui pourront être contagieuses. C'est pas la peine. Mais ça, c'est certain.
Chers amis, chers camarades, la filature est occupée. Occupée par ceux qui refusent de liquider l'héritage de 68, occupée par ceux qui, forts des combats d'hier, veulent agir aujourd'hui et demain pour un monde plus humain, plus fraternel. Vous venez participer à cette occupation. Au nom de la CGT, je vous souhaite la bienvenue. Chaque année, le 11 juin, nous rendons hommage à Pierre Bellot et Henri Blanchet, les deux ouvriers tombés sous les coups de la répression policière et patronale au cours de cette journée sanglante où la direction Peugeot et le gouvernement ont tenté une opération de force contre la grève. Aujourd'hui, nous voulons surtout, avec vous, fêter l'anniversaire de ce qui fut la plus grande grève du XXe siècle. Fierté que les travailleurs de Sochaux et de notre région n'aient pas cédé au coup de force de la direction Peugeot et du gouvernement.
Vous avez entendu, il l'a dit, hein. Il a dit fierté. Il a dit fierté, ce porte-parole de la CGT ce jour-là, ce 30 mai dernier, dans ce grand bâtiment qui est la filature d'Audincourt, la filature Japy, aujourd'hui réhabilité en maison de la culture, tout près du théâtre de l'Unité. Et c'est là que le 30 mai, il y avait cette réunion, cette fête, ces débats, ces expositions, grand dîner avec musique et bal pour célébrer, non seulement ce 11 juin 1968, mais se célébrer aussi, se célébrer avec une certaine fierté. La classe ouvrière entre 1968 et aujourd'hui a bien changé dans le regard, a bien changé dans les représentations, a bien changé dans les esprits, a bien changé aussi, il faut le dire, dans les rapports de force. Aujourd'hui, si on lit, comme nous le faisons régulièrement, Michel Pialoux et Stéphane Beau, deux sociologues les plus aguerris sur la question ouvrière, et spécialement Sochaux et Peugeot, eh bien, il y a une sorte d'inversion. C'est aujourd'hui les classes moyennes supérieures qui se réclament des valeurs du monde ouvrier, alors que les ouvriers rejettent, très souvent les jeunes ouvriers, rejettent ce monde. Et Pialoux et Beau l'ont montré. Mais Pialoux, Michel Pialoux, a aussi préfacé un livre formidable que je vous recommande, signé de Marcel Durand, qui s'intitule « Grains de sable sous le capot ». Marcel Durand, c'est un pseudonyme et c'est un livre qu'il a écrit, en précisant bien que d'autres, à l'intérieur de l'usine, d'autres ouvriers auraient pu l'écrire, et c'est une chronique qui est très très gaie, très poilante, très jubilante et très engagée et très précise sociologiquement et humainement sur ce qu'est et ce que fut la vie chez Peugeot, disons depuis le début des années 70. Aujourd'hui, on va passer cette heure avec des ouvriers engagés souvent des syndicalistes qui nous racontent ce qu'est la vie, ce que fut la vie, ce qu'est Peugeot et ce qu'est le travail, ce qu'est la classe ouvrière et ce que sont ces luttes ouvrières. Avec une qualité particulière dans l'esprit, la voix et l'élan des hommes que vous allez entendre, c'est qu'ils sont à la fois capables d'être engagés et lucides. Engagés et lucides. C'est assez rare pour que nous passions avec eux 7h jusqu'à 16h. Là-bas, si j'y suis, l'histoire peut être porteuse de surprises salutaires.
Quand les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin. Quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagouses elles changeront de doigts, quand l'homard changera fourchette, les employés on sera les rois.
Il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG.
Remarquez même en Rockefeller, je resterai comme un fils d'ouvrier, un employé, un bas salaire, c'est une chose à pas oublier.
Oui,
mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de bignou. Quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime il changera de client, quand les smoking changeront de valise, alors la vie, les gentlemen, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Changeront de bouche, quand les stars elles changeront demain, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin. Quand les gibus ils changeront de tiette, quand les bagouses elles changeront de doigts, quand l'homère il changera de fourchette, les employés on sera les rois. Il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG.
La 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 la, les PDG.
Christian Corrouge.
Corrouge Christian, je suis ouvrier toujours à l'usine de Sochaux, donc chez Peugeot.
Ça va faire.
J'ai 58 ans, ça va faire 40 ans.
T'as commencé en 69.
J'ai commencé en 69 et je suis arrivé en sachant, moi, de loin, qu'il y avait eu des incidents graves à Sochaux, donc des morts et des blessés en 68. Et c'est peut-être bien ça, quelque part, qui m'a convaincu de venir, parce que j'avais cru, dans l'ouest de la France, qu'il y avait un mouvement social important à Sochaux. Et ça a sûrement été quelque chose de déterminant par rapport à mon arrivée dans le coin.
68, la suite. Voilà, Christian Corrouge, c'est une des figures à Sochaux, chez Peugeot, depuis longtemps. Il milite, il fait partie, il n'est pas le seul. Ils sont toute une série comme ça d'ouvriers et d'ouvrières qui sont engagés, qui sont porteurs d'une expérience, de savoir, qui sont des véritables documents humains de ces savoirs et de ces expériences à qui, dans les luttes, à travers toutes les luttes qu'ils ont livrées, à travers le monde du travail dans lequel ils sont toujours, à travers cette usine dans laquelle Corrouge Christian va travaille toutes les nuits, encore il se lève, il fait ses 8 heures, il est donc toujours plongé dans cet univers. Donc voilà qu'est devenue la classe ouvrière qui, je le disais, on le sait bien, a un peu disparu des écrans. Et depuis, elle est là. Elle est bien vivante et elle raconte, elle se raconte.
Mais alors après, l'habitude s'installe, je me suis devenu militant. Et après, on a essayé de collecter le maximum d'histoires de vieux ouvriers qui nous racontaient 68 d'une drôle de façon par rapport à cette journée du 11 juin, donc avec ces incidents. Et puis, moi je travaillais beaucoup en chaîne. Ce qui était rare à l'époque, parce que souvent les délégués CGT et CFDT étaient des ouvriers professionnels, pas des OS. Et donc le changement, la bascule en 60...
C'était volontaire de ta part, non ?
Non, mais souvent avant le service militaire, Peugeot ne prenait que des ouvriers professionnels pratiquement suivant leur aptitude et suivant leur moralité.
T'avais pas de moralité ?
Pas beaucoup.
Ah.
J'avoue quand même déjà. Que ça n'allait pas fort. Non, de ce côté-là, c'était pas terrible. Et donc avant le service militaire, on nous mettait en chaîne, et après le service militaire, seulement on était répartis dans les ateliers professionnels, si on avait des CAP, etc. où sont les chaînes de montage, etc. Et ces deux ans étaient en fait une espèce de round d'observation de la part de la direction. Et bon, ben moi, ça s'est pas trop bien passé. Donc, quand je suis revenu au service militaire, on m'a collé sitôt en chaîne. Et bien sûr, je suis toujours tout de suite devenu délégué CGT, puisque j'étais à la CGT. Et donc, ça a continué. J'ai été délégué pendant très longtemps, pendant 18 ans, quoi. Mais avec un truc particulier, j'ai toujours pensé, mais je pense encore profondément maintenant que je suis devenu ouvrier professionnel, mais je continue quand même à avoir un sentiment très profond d'injustice par rapport aux OS. Je veux dire, 68, ça a été aussi la prise de conscience qu'il y avait des gens qui souffraient dans les usines, mais qui souffraient pas par manque de reconnaissance sociale, P1, P2, P3, technicien, etc., avec un carcan de chef d'équipe, mais qui souffraient dans leur chair, je veux dire, physiquement, en travaillant en chaîne, un travail pénible, harassant.
Ça, personne, vous déjà.
Personne ne le racontait d'une façon, moi j'avais pas lu
les temps modernes de Chaplin, oui, voilà, Simone Veil,
voilà, mais oui, d'accord, mais quand on est OS, on n'a pas lu tout ça, oui, quand on arrive dans l'usine.
T'as peut-être vu les temps modernes.
Quand on lit, quand on arrive à 18 ans dans une usine, on n'a pas lu tout ça, donc on arrive complètement comme ça, on regarde, on se dit c'est un truc infernal. Et après seulement, on s'oblige à avoir des lectures pour justement chercher. Mais au départ, non. On nous avait pourtant averti dans nos différentes écoles que c'était la chaîne de montage avec tout ce que ça comportait. On avait une idée, mais j'avais pas encore idée à tel point les gens mentalement, psychologiquement sont sous pression, souffrent psychologiquement de leurs conditions sociales sur une chaîne. Cette condition est terrible, et physiquement et moralement.
Est terrible ou était terrible ?
Est terrible. Encore maintenant, je crois que ça s'est même aggravé maintenant. Je crois que c'est encore pire que ce que j'ai vécu, parce que ces espaces de liberté, ces petits temps qu'on avait, ces espèces de déconnades qu'on pouvait avoir au milieu des chaînes de montage par des réseaux de solidarité ont disparu complètement. Par le fractionnement, etc., mais... par des temps de chronométrage terribles. Et c'est là-dessus qu'ils gagnent en productivité.
Alors, levé à 2h du matin, départ des bus, 3h, arrivé 3h30. La sirène, 4 heures. Le casse-croûte, 6h30. De 6h30 à 1h15, terminé. 10 minutes de dépannage, un point, c'est tout. La semaine après, changement de décor. Départ des bus, midi. Arrivée, 1 heure. La sonnerie, 1h15. Travail, 10h30, 11h moins le quart. Rentrée à minuit, avec une demi-heure de casse-croûte. Alors si bien que vous en avez l'estomac tout retourné, que vous arrivez à manger 2 ou 3 jours par semaine. Mais vous êtes 2 jours dans la semaine où vous mangez absolument rien. Le lundi, le mardi, il faut mieux pas y compter. Pendant 10 ans, j'ai fait ça. Et il y en a 18 000 qui le font chez Peugeot. Il y en a 18 000 qu'ils le font tous les jours. Il y en a 18 000.
Sochaux, 11 juin 68, c'est un extrait de ce film qui date de 1970 et qui retrace cette journée, et qui a été réalisé par le fameux groupe Medvedkin, dont on parlera. C'était un groupe composé de professionnels du cinéma, comme Bruno Muel ou Chris Marker, mais aussi de salariés, de syndiqués, d'ouvriers qui ont participé. Là, on est aujourd'hui et on évoque cette histoire, cette condition ouvrière chez Peugeot à Sochaux, mais que d'autres ailleurs pourraient raconter. Et les revenus ?
Les revenus, en moyenne, quelqu'un qui travaille en chaîne et qui travaille en doublage, je veux dire, il fait quoi, 1400 euros ?
C'est ce que tu fais, toi ?
Moi, non, je suis ouvrier professionnel, j'arrive à 2000 euros parce que je travaille de nuit, 2000-2200 euros parce que je travaille de nuit.
Après 40 ans de boulot ?
Après 40 ans de boulot, c'est ça, en étant P3. Ouais. Donc c'est pas terrible par rapport au salaire de mon PDG qui fait quand même 5 700 € par jour, lui.
Ah, t'es envieux, t'es quelqu'un d'envieux alors.
Pas d'envieux, j'ai pas envie de lui ressembler. J'ai vraiment pas envie de lui ressembler. J'ai envie simplement de gagner ma vie correctement. Mais je pense que je sais pas trop ce qu'il peut en faire. Il y a eu un malaise, ça doit être parce qu'il avait pas assez.
Bah oui,
je pense qu'il avait pas assez, il avait du mal à gérer.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Qu'est-ce que vous avez voulu faire?
Alors aujourd'hui, on a voulu montrer qu'au bout de 40 ans, premièrement, il y avait un souvenir vivace dans la région qui existait par rapport à ces événements de 68. On a voulu surtout montrer que, contrairement à ce que montraient beaucoup les médias et les différents journaux, que le mouvement de 68, ici à Sochaux, est un mouvement très ouvert. Alors peut-être parce qu'il n'y avait pas d'université ni de faculté à Montbéliard, il n'y a pas d'étudiants, donc il n'y avait pas de... C'est vrai que c'était compliqué, mais c'était vraiment ouvrier. Et quand on touche à quelque chose de bien précis, comme là en l'occurrence un mois d'occupation d'usine avec plus de bagnoles qui sortent du tout, les patrons sont très violents et très méchants. Et là, il envoie le service d'ordre pour nettoyer l'usine de toutes ces tracailles. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. Et ça, on a eu envie de montrer que les patrons, en fin de compte, il y a un siècle déjà, donné par garde mobile interposée les mineurs par exemple dans le Nord, mais qu'en 68 c'est exactement la même chose et que maintenant ce sera sûrement la même chose, c'est probable que ce soit la même chose si vraiment on empêchait les bagnoles de sortir, s'il n'y avait pas un rapport de force conséquent avec les médias, s'ils pouvaient ne pas être filmés, ils feraient exactement la même chose, ils pratiqueraient exactement la même chose.
C'était au lendemain de Flins.
Aux usines Renault de Flins, le mouvement s'était durci et la journée, après un important meeting près des usines gardées par les gendarmes mobiles, avait été extrêmement chaude. Une véritable guérilla s'était installée dans les champs d'alentour. Police d'un côté, ouvriers et étudiants de l'autre. Il a été bien difficile aux bonnes volontés de s'interposer dans cet affrontement dont un HLM du voisinage a fait les frais.
Le Flins, quoi, c'est 10 juin.
10 juin.
Hein, Flins, Renault.
Voilà.
Là, ça bastonne, ça cogne, voilà. Ça rigole plus, on rigole
toujours,
plus.
Il faut des bagnoles. Voilà.
Et donc, évidemment que les gars ici sont au courant de ce qui se passe à Flins.
Plus ou moins, l'information circulait quand même pas trop bien, c'était pas d'une façon très précise par rapport aux incidents. Mais par contre, la direction Peugeot, elle savait très bien ce qui s'était passé à Flins. Et ils avaient la même attitude, à savoir, il faut dégager l'usine, il faut ressortir les productions. Voilà.
Peugeot, patron, police, deux morts. C'est une des affiches de 68, j'allais dire, mais celle-ci, elle est de juin. Effectivement, le 10 juin, il y a eu à Flins, Renault Flins, la mort de Gilles Totin. On continue l'évocation de ces luttes passées et présentes avec Christian Corrouge.
Alors attends, t'es arrivé, t'arrives en 69, et t'avais ?
J'avais 17 ans et demi, 18 ans.
Mais d'où tu sortais pour être
enragé
comme ça déjà ?
Je sortais de Cherbourg, mon père était militant, avait longtemps travaillé des arsenaux, mais je crois surtout qu'il avait... la révolte, c'est plutôt d'avoir une enfance liée aux maladies professionnelles. Mon père a chopé un cancer en faisant des vedettes, les fameuses vedettes rapides de Cherbourg, là, qui avaient été piquées une nuit par les Israéliens, là, pour... ces vedettes-là étaient faites par des produits chimiques qui étaient interdits. Et en fait, il a chopé un cancer à la vessie. Moi, j'étais très jeune, j'avais avoir une dizaine d'années. Et la marine voulait pas reprendre ça en maladie professionnelle. Et il avait gardé les flacons de produits, les a fait analyser. Et donc, il était reconnu en maladie professionnelle. Mais donc, son cancer de la vessie, il a été sauvé. Mais son cancer de la vessie a fait que jusqu'à 18 ans, 17 ans, j'ai toujours vu mon père malade, mais souffrir terriblement de cette maladie liée à des mauvaises conditions de travail. Oui, il était chaudronnier, il était fait trois choses. Oui. Et il travaillait donc à l'arsenal de Cherbourg et sur les sous-marins. Et donc, ce genre d'enfance amène une haine terrible de
ta mère, de la famille.
C'était l'époque des femmes qui... Des femmes des militants. 68 est venu après, quoi. Mais avant 68, on voit bien que dans le mouvement syndical, il y a plus de femmes à l'époque. Voilà, il y a l'avant et l'après. Ouais. Et c'est 68. Ce serait intéressant de discuter de 68 comme ça. Quand il dit 68 n'a servi à rien, nous, au contraire, je veux dire, on a vu dans les années 71, 72, 73, des sections syndicales en carrosserie, qui étaient quand même une usine de 8000 personnes, constituée pratiquement de 3500 émigrés, de travailleurs émigrés, yougoslaves, turcs, marocains, algériens, etc. Et on mettait des délégués délégués femmes qui étaient parfaitement acceptés, avec une majorité même de délégués femmes à partir de 1974. Donc c'est bien le changement, là, ces années charnières. Quoi.
Nous ne pouvons pas accepter la division. Jusqu'à maintenant, nous avons décidé de la grève ensemble. Nous avons exposé nos revendications ensemble. Nous sommes allés discuter avec la direction ensemble et nous devons continuer notre lutte ensemble. S'il y a un vote, il sera fait ensemble. Nous voulons absolument
au nom de la démocratie, nous proposer 10% sans l'échelle mobile. On ne nous tuera pas comme ça. On luttera le temps qu'il faudra. Au nom de la liberté, camarades, nous ne pouvons pas accepter la division.
Nous ne pouvons pas accepter la division.
Jusqu'à maintenant,
nous avons décidé de la grève.
Nous avons décidé de la grève
ensemble.
Nous avons exposé nos revendications
ensemble. Nous sommes allés discuter avec la direction ensemble. Et nous devons continuer notre lutte ensemble.
Continuer notre lutte
ensemble.
Vous étiez une grande famille, t'as des frères et sœurs.
On était cinq. Et donc, j'ai une sœur qui a mal tourné, elle est partie à FO, elle, mais les autres...
Oh là là, FO ?
Ouais, mais bon, je sais pas, non, on se pose pas. Mais les autres, non, se sont tous engagés très tôt aussi dans le militantisme. Donc voilà, non, c'est une vie normale, de famille ouvrière normale, avec tout ce que ça comporte comme conneries et comme morale. Comme éthique aussi, parce que là, faut pas rigoler quand même. Il y a une forme de... une espèce de dignité ouvrière qu'il fallait garder, quoi. C'est... Le mot travail chez mon père, c'était la solidarité, l'honorabilité, taper sur la table pour se faire entendre chez les patrons, comment s'unir le maximum pour arriver à gagner quelque chose. C'était plutôt ça, quoi.
Ouais, ouais. Et tu trouves aujourd'hui, avec ton expérience, que la dignité ouvrière a disparu. Est-ce que les... Tes jeunes collègues aujourd'hui, tes jeunes camarades ont la même fierté que vous pouviez avoir quand vous étiez...
Je pense qu'ils sont même plutôt, comment dire...
Un peu honteux.
Ils sont un peu humiliés, je dirais. Le mot est un peu trop fort, mais pourtant c'est bien un peu ce que je ressens. Ils sont pas bien dans leur habit d'ouvrier, quoi. On leur a mis le mauvais costume au mauvais moment. Le patron avait cassé tous ces réseaux un peu de solidarité qui existaient dans l'usine et il avait individualisé un peu tout ça et donc ils se sont retrouvés un peu bien tout seuls devant un chef d'équipe qui était très formé politiquement et qui a su les canaliser pour dire la seule solution pour que tu te sortes d'une chaîne, c'est de marcher dans la combine. Hein. Faut travailler dans le sens du patron. C'est un peu ça qui s'est joué à partir des années 74. C'était mis en place 74 et ça continue encore maintenant. Je veux dire, c'est un peu la filière normale. Et donc, tous ces réseaux de solidarité ayant disparu, et c'est vrai que ces jeunes ouvriers n'ont pas conscience de ce qu'on peut gagner quand on est tous ensemble et groupés. On l'a vu, par exemple, la grève de 89, il y a une grande grève en 89 à Sochaux, qui a duré 7 semaines. Et on a vu qu'au fur et à mesure du temps, ces jeunes ouvriers prenaient quand même de la responsabilité, regagnaient une dignité. Et je pense que, d'ailleurs, ça s'est dit comme ça, le combat pour la dignité, je suis pas toujours d'accord, parce que dans le mot dignité, on met plein de choses qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Mais d'arriver, par exemple, à faire rentrer des médias alors que la direction s'y oppose dans l'usine en 89, c'était un acte héroïque de la part des ouvriers. Et c'était aussi reconquérir leur habit d'ouvrier, parce que montrer comment qu'on est attaché sur une chaîne de montage, c'est déjà vaincre son humiliation, c'est déjà se bagarrer contre.
Tu comptes être embauché, donc ?
Bah, j'espère, oui. Bah, je fais le maximum pour, hein.
Comment, c'est quoi le maximum pour ? Ça consiste à quoi ?
Quand on me demande, par exemple, chaque fois qu'on me demande quelque chose, au maximum, j'essaye d'être d'accord, de dire oui, quoi.
Quel type de choses qu'on me demande ?
Par exemple, je veux venir le samedi, bon, déjà parce que ça me fait des heures supplémentaires, donc ça me fait plus de sous-doute sur ma paye. En plus, comme je ne refuse pas, je pense que ça me donne des points en plus, quoi.
À la boîte, derrière toi, les chiourmes, à la boîte, les cadences infernales, à la boîte.
La boîte calopie,
le bol brûlé,
les pétalistes,
le soir complètement brisé, à la boîte, pas de fin de mois aisé, à la boîte,
la production,
salut.
solidarité, oui, solidarité. Ils ont licencié tous tes amis. Quand t'as la rime, tu crodis sur la glace. Qui vous use mon force, qui vous bouffe le sang et qui vous jette faute de sang.
Christian Driano, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, Christian ?
Je suis ouvrier chez Peugeot depuis 38 ans maintenant. Je viens de la Bretagne où il n'y avait pas de boulot. Et puis, j'étais l'aîné d'une famille ouvrière. Et sur une petite annonce, j'ai débarqué dans le pays de Montbéliard. Et puis, j'y suis toujours.
Et vous êtes toujours ouvrier aujourd'hui ?
Toujours, jusqu'à 60 ans.
Voilà, Christian Driano... On a rencontré donc ce 30 mai à Audincourt, ça se passait à Audincourt, la filature, ex-filature Japy. Je dois dire que les sons qu'on entend sont extraits tous des films du groupe Medvedkin. C'est un coffret que je vous recommande. Le film est une arme et c'est des extraits de différents films, Weekend à Sochaux, Avec le sang des autres, etc. Alors, voilà une autre expérience, celle de Christian Corrouge, et maintenant... celle de Christian Driano, c'est des parcours un peu différents, des positions un petit peu différentes, et qui illustrent bien cette vieille guerre de religion, un peu comme les protestants et les catholiques. Écoutez.
D'abord, je suis arrivé ici à Sochaux. Mon père m'avait éduqué dans le sens, puisque t'as pas travaillé, t'iras à l'usine. Ben, première chose que tu fais quand tu arrives à l'usine, tu prends ta carte à la CGT. Tu m'as bien compris ? La carte à la CGT. Je tombe sur un délégué CGT, je prends ma carte.
Obéissant, fils obéissant.
Oui, puis d'accord, j'étais d'accord. Ensuite, j'ai rencontré des militants de lutte ouvrière, donc qui militaient d'avant 68, et qui m'ont proposé de discuter. J'étais ouvert à la discussion. Je dois avouer que j'aurais rencontré un gars du Parti communiste qui m'aurait dit « Viens chez nous, on a besoin de toi ». Même si j'avais un peu de réticence par rapport au PC, j'y serais allé. J'y serais allé. Je pense que j'y serais allé. Mais je suis tombé sur des gars de lutte ouvrière qui m'ont proposé la discussion, qui m'ont proposé aussi de... Avec d'autres, on faisait des cours. Des cours, on abordait un sujet politique. Ici, à Audincourt, dans des arrière-salles de bistrot, c'était rempli.
Ah.
C'était rempli.
Quelle année, ça ? On est quelle année ?
70. On allait en 70. Ça dure... Il y a une période où la jeunesse pompe les idées. Elle est réceptive aux idées. Ça va pas durer. Hein, les années 75, 80, bon, ben, ça va refluer. Et Le Parti communiste, je suis à la CGT, je côtoie les gars du Parti communiste tous les jours, ils vont reprendre la main. Parce que les petits partis gauchistes ne font pas le poids. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça va se passer.
Et vous êtes resté à lutte ouvrière ?
Oui. J'ai fait un choix et je l'ai maintenu, je l'ai confirmé.
Et vous êtes toujours ?
Ouais. Ouais.
Vous représentez LO, quoi.
Je suis un peu le porte-parole, oui.
Ouais.
Il y a des gens qui ont plein d'idées, puis qui n'osent pas, ou qui ne savent pas trop. Donc il faut les aider. On les aide, et on les aide à gagner.
On a un animateur d'équipe. Tu remplis un papier qui te permet d'exposer ton idée. Si l'idée est bonne, tu peux toucher une prime de 200 francs. Maintenant, si tu as des bonnes idées, le service déclic est pour ça. Donc on demande aux gens d'avoir 5 déclics par an, mais en général, il y en a quand même beaucoup plus. Hein ?
Raconte-toi, alors, Emilien, s'il te plaît, raconte l'exemple que tu connais très bien.
Le gars expliquait que pour monter sa pièce, il lui fallait un boulon, une vis, n'importe quoi. Et le préparateur, dans la gamme de travail, avait pris un temps de déplacement pour aller chercher son boulon, un temps de déplacement pour aller chercher sa vis, tout ça. Mais le gars, il disait, moi, je prends tout ça dans la poche de mon bleu et puis j'évite les temps de déplacement. Ah bah oui, c'est clair, mais c'est comme ça qu'il arrivait à respirer un petit peu, respirer entre deux voitures, parce qu'il avait aménagé. Mais ça s'est traduit comment ? Eh bien, le mois après, dans la gamme de travail, on a supprimé les temps de déplacement, du boulon, de la vis, etc. Il n'y a eu plus qu'un temps de déplacement. Et c'est tout des temps pour respirer un petit peu entre deux bagnoles qui disparaissent.
J'ai 38 ans chez Peugeot.
38 ans chez Peugeot, 1500 euros.
Ça fait combien, ça va avec les primes?
Non, mais c'est 1500 en primes inclus. Là, je dois avoir 1540, 1550. Mais les jeunes intérimaires qui rentrent, ils ont, allez, 1200. Et ils se lèvent à 5 heures du mat, ils sont en chaîne, ils produisent des voitures. Voilà. C'est dur, hein. Et c'est des salaires qui sont très bas.
Est-ce que c'est plus dur aujourd'hui, le boulot lui-même?
Les anciens qui travaillent encore en production, parce qu'il y en a beaucoup, ils disent que c'est plus dur. Le travail s'est intensifié au sens où physiquement on demande plus. C'est-à-dire on occupe plus les muscles. La machine, ils ont adapté la machine et l'individu pour que le rendement soit supérieur. Et puis l'isolement. Quand vous êtes occupé toute la journée sur un poste, même si vous avez quelqu'un à 3 mètres de vous, vous ne pouvez pas parler. Ce n'est pas possible.
Vous avez une phrase que j'ai notée tout à l'heure. L'histoire peut être porteuse de surprises salutaires.
Moi, j'ai retenu, parce qu'on me l'a appris, on me l'a fait lire, mais le Monde d'avant 68, un éditorial de je ne sais plus trop quel éditorialiste, disait « La France s'ennuie ». Puis d'un seul coup, là où on disait « les ouvriers sont embourgeoisés, ils sont écrasés par le crédit, ils ne pensent qu'à accéder aux moyens de consommation, le pouvoir est fort », puis d'un seul coup, personne n'a rien vu d'arriver. Personne. Les syndicats s'y étaient pas préparés, mais n'ont rien vu arriver. La presse, les médias, bon... Et puis, ça part comme un coup de fusil. Heureusement que la lutte des classes n'est pas une science exacte. Et l'avenir, moi, c'est ma conviction, laissera certainement passer ou s'infiltrer des situations qui pourront être contagieuses. Sinon,
pas là.
Ben, c'est pas la peine. Mais ça, c'est certain. Obtenir aujourd'hui une augmentation de salaire, on va voir son patron. Il dit non. Mais pour obtenir qu'il la cède, il faut quand même que la grève s'étende de l'atelier à l'atelier d'à côté, à l'ensemble de l'usine. Et aujourd'hui, les entreprises, c'est des groupes. Les plus petites ont été rachetées, c'est des groupes. Donc, il faut que ça s'étende au groupe. Et ça, c'est des choses que naturellement, quand on rentre en bagarre, on va essayer de faire. Sinon, on n'a aucune chance. Mais ça, moi, la dernière grève que j'ai connue, c'est celle de 89 à Sochaux. On a fait 5 semaines. On a démarré parce qu'ils avaient démarré à Mulhouse. Ça devient l'évidence. Oui.
Sochaux, où nous rejoignons les envoyés spéciaux de FR3 Besançon.
Les gars, quand ils sont pas en grève, ils font des véhicules d'excellente qualité. On a proposé à la presse de rentrer pour voir dans l'usine les véhicules qui sont sur les chaînes et l'état des chaînes. Les véhicules qui sont fabriqués sont d'excellente qualité, c'est pas là qu'est le problème.
La quantité de voitures produites, effectivement, demeure controversée, de même que le nombre des grévistes. Selon la direction, qui a interdit l'accès de l'usine à la presse, il n'y a pas d'arrêt de la production. Les syndicats CGT, CFDT et même FO, peu habitués à l'union à Sochaux, ont finalement dû suivre ensemble le mouvement des ouvriers, un élément qui prouve la détermination des grévistes et qui peut s'avérer décisif pour l'avenir du conflit.
Alors, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des tensions avec le PC, avec la CGT, ou bien ça se tasse, ou bien ça se folklorise, ou bien c'est plus profond qu'on ne le croit?
Alors, le Parti communiste s'est considérablement affaibli, et le poids qu'il avait dans la CGT, sur la CGT, c'est aussi considérablement affaibli. Pour être délégué CGT dans les années 70, je pense que, allez, 80-90% des délégués étaient affiliés au Parti communiste. C'était quasiment impossible de l'être sans être au PC. Le stalinisme, c'est-à-dire le poids du PC avec ses méthodes dans la CGT était considérable.
Mais là, quand même, sur la version qui est donnée de ces événements, d'accord, j'ai compris que vous êtes arrivé après, ici.
Je peux dire, mon sentiment à moi, c'est que mai 68 n'est pas allé au bout de ce qu'elle pouvait amener. Elle pouvait pas, c'était pas une période révolutionnaire, il n'était pas question de prise du pouvoir, ni d'insurrection, ni quoi que ce soit. Mais il y avait un mouvement qui était demandeur et qui n'a pas été satisfait. Mais après 68, le patronat, vous croyez pas, il reprend la main. Hein. C'est pas la liberté dans les usines après 68. Loin s'en faut. Les méthodes musclées, les syndicats maison, on prend la parole dans une usine après 68 à Sochaux, on est mis à pied. On est mis à pied. Les délégués sont très surveillés. Celui qui fait pas attention et qui n'est pas hyper prudent, il est viré. Non, après 68, dans les usines, c'est pas la liberté, c'est pas la libération. Le patronat reprend largement la main. C'est fini la rigolade, quelque sorte.
Retour à la normale.
Et retour à la normale. Il y met les moyens.
Aujourd'hui, quelle est la... Est-ce que la pression sur les syndicalistes chez Peugeot continue?
Il y a moins de besoin. Il y a moins de syndicalistes. Il n'y a pas beaucoup d'adhésion. C'est la paix sociale. Qu'est-ce que vous voulez? Que le patron, il aille emmerder les syndicalistes. Pourquoi? Ils sont quand même assez intelligents puis pragmatiques. Par contre, après 68, ils ont eu quand même la trouille. Leurs usines occupées, ce mouvement-là qui venait... Bon, il fallait reprendre la main. Et ça, ils l'ont fait de manière énergique. Ça, c'est sûr.
Fin 74, à Sochaux, les élections pour le comité d'établissement ont vu disparaître les deux délégués de la CFT. Mais cela ne doit pas faire oublier ce qu'ils ont fait, ce qu'il est encore possible qu'ils soient amenés à faire.
Enfin, le 22 avril 72 à Bar, c'était la veille des élections d'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Alors tout à coup, un commando de mecs, ils s'amènent sur nous, ils sortent des camionnettes, enfin, ils avaient des voitures, des 404 bâchés, quoi. Ils sortent des voitures en violant à nous la Légion, frappez fort, cognez fort. Et j'entends trois noms, le Didier, le Renard et Chavarrien. Je me suis trouvé coincé par environ 8 mecs de la CFT, qui étaient armés de barres de fer, de couteaux, un tas de trucs. Et ils m'ont tombé dessus. Et j'ai entendu un qui disait frappez fort sur la tête. Et il y en a un qui a dit sauvons-nous, là sans compte, il n'y a plus qu'à le laisser crever.
Alors on l'a monté dans la voiture des pompiers.
Ils ont trouvé que j'avais une fracture dans la mâchoire, non? J'ai 36 points de suture sur la tête. Enfin, j'ai eu des dents en moins. J'ai eu un œil, j'étais ouvert, j'ai perdu 5/10 un œil. Enfin, je suis resté presque un an sans travailler. Toi.
Un témoignage de René Le Diguerre, René, qui témoigne dans ce film qui s'appelle Avec le sang des autres et qui était présent le 30 mai. Donc à Audincourt, on continue et on finit avec Christian Driano, Histoire du syndicalisme.
Je fais des formations syndicales. Donc j'apprends à des ouvriers et des ouvrières d'aujourd'hui qui sont jeunes, qui prennent leur carte à la CGT, qu'ils appartiennent à une classe sociale, qui a une histoire, qui est né au XVIIIe siècle, dont les premiers militants qui ont construit les syndicats n'avaient pas de comité d'établissement, n'avaient pas de locaux, n'avaient pas le droit de se réunir, étaient interdits, il y avait la loi Le Chapelier, et pourtant ils ont fait des grèves, et pourtant ils se sont organisés, et pourtant ils ont fait avancer les droits dans la souffrance, la difficulté. Parce que le mouvement ouvrier, il a une histoire. Je leur dis qu'on ne vous l'apprendra pas à l'école, parce que c'est pas dans vos manuels scolaires. Je leur demande, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Commune de Paris? Rares ceux qui ont entendu parler. Donc on en parle. Et tout ça, on leur parle des anarchistes qui dominaient le mouvement ouvrier, des blanquistes qui voulaient prendre et montrer l'exemple, et qu'il y avait les marxistes qui ont été un apport dans la philosophie de l'époque. Mais des ouvriers, des ouvrières, ça les passionne. Ah bon, c'était comme ça? Ils sont réceptifs à ça. Alors qu'ils ont peut-être fui les cours d'histoire de leurs enseignants à l'époque où ils y étaient. Mmh. Mais quand on leur dit, écoutez, si vous venez à la CGT, C'est pas pour la parlotte, c'est pour être fort, c'est pour s'organiser, pour demain faire de grandes choses. Il faut que vous appreniez le passé pour pas faire les erreurs de l'avenir. Moi, je leur dis qu'il y a des dirigeants de la CGT qu'on trahit. Je leur dis que Pétain, il a eu dans son gouvernement un responsable de la CGT. Je leur dis que Jouot, en 14, la veille, il disait on n'ira pas, et le lendemain, il faisait partie d'un gouvernement de guerre qu'envoyaient les prolétaires au front. Je leur dis le langage de la vérité. Donc, il faut savoir que vous n'êtes pas dans un syndicat qui est la maison du bon Dieu, où tout va bien, tout est beau et tout le monde il est gentil. Vous êtes dans une organisation, choisissez vos dirigeants, soyez critiques, jugez, mais moi, et puis d'autres qui causeront dans le syndicat, voilà à quoi on se prépare. Sinon, on est mûr pour l'esclavage, pour des générations et des générations. Eh bien, non. La classe ouvrière, elle a été porteuse d'avenir, elle l'est encore. Regardez, quand on arrête le boulot, c'est la panique. C'est la panique, le robinet du profit qui s'arrête. Donc on a un poids, mais pas seulement un poids. On peut être, comme l'étaient les dirigeants ouvriers du 19e siècle, on peut être porteur d'un projet de société.
Alors pour moi, l'avenir, c'est d'abord plus de chômage. Parce que le chômage, ça sert à rien. Et un ouvrier sans travail, c'est rien. L'usine, elle sera claire, vitrée, et il n'y aura plus de fumée, elle passera sous la terre. Le directeur, lui, il sera nommé par les ouvriers. Ça sera une élection ouverte à tous, sans distinction. P1, ingénieur, n'importe qui pourra y assister. Le directeur administrera, il ne sera pas payé. Il travaillera à la chaîne, à la fonderie, à l'embout. Il aura la paye d'un P2 si c'est un P2. Ensuite, les ouvriers, eux, auront une certaine production à fournir, mais ils la fourniront, ils seront plus contents parce qu'ils sauront qu'ils travaillent pour eux. Et ils auront moins d'heures, bien sûr. Pour la cité, il faut d'abord supprimer tout ce qui en est dit. Les fumées, les blocs, les cheminées, puis ça sera remplacé par des petites maisons, des immenses jardins, de l'herbe, des arbres, puis des fleurs. Et n'importe qui rentrera dans n'importe quelle maison, il se retrouvera en ami, on l'accueillera en frère, ils l'aimeront n'importe qui. Et les portes seront pas fermées, il n'y aura pas de clé. Il n'y aura plus de voleurs, donc. Et il faut que les gens aient confiance et se fassent confiance. Et cette confiance sera accentuée par la suppression des frontières qui ne servent qu'à séparer les hommes encore plus, à les traiter d'étrangers, et la suppression de l'argent qui les rend avares, envieux et soupçonneux. Alors, voilà, c'est ce que je vois.
Annette Paléo qui vient de parler. C'était dans le film Weekend à Sochaux et c'était en 1972. Merci à tous. C'était un reportage avec Antoine Chao. Merci à Christian Corrouge, Bruno Muel, à l'ISCRA, à Bruno Lemerle, Michel Pialou, Stéphane Beau, Jean Cadet, Christian Driano, Jacques Lifshin, René Lediguerre et donc Annette Paléo. À voir les films du groupe Medvedkin de Besançon et de Sochaux, disponibles en DVD aux éditions Montparnasse. On a entendu aussi au cours de cette émission des extraits du film, excellent film de Patrick Jean, édité par Lina, Ouvrier, c'est pas la classe. Et puis aussi à lire Grain de sable sous le capot de Marcel Durand aux éditions Agone. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. À la rubrique émission, là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez également tout savoir comment, pour devenir un SDG, c'est-à-dire un souscripteur modeste, SMG, pardon, souscripteur modeste et génial, concernant le film Chomsky et compagnie, qui est envoyé au souscripteur, qui sera envoyé au souscripteur avant le 18 juin. Et voilà. À la technique aujourd'hui, Antoine Viossa et Frédéric Potry, Yann Chouquet et Koyen Guyen ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry. Et c'est Christophe Imbert qui attend vos messages au répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et puis,